On veut d'abord élever le nom de l'Éternel et ça fait toujours du bien de prendre un temps avant, je pense, avant un message pour vraiment exalter le nom du Seigneur. Et comme on a vu ce matin en première partie, l'Éternel est ma force et il est le sujet de mes louanges, je l'exalterai. Alors j'espère que c'est le cas pour chacun de vous ce matin. Et un sujet tout à fait particulier, en fait, c'est la suite de notre lecture des sept lettres qui sont adressées aux églises dans le livre de l'Apocalypse. Alors, on voit ce matin, c'est la deuxième lettre qu'on va présenter. En fait, c'est la troisième lettre de la série, mais en fait, c'est la deuxième. On n'a pas fait Éphèse, compte tenu d'un changement dans l'horaire au niveau des messages. Donc, on verra Pergame ce matin et Éphèse sera présenté plus tard. Donc, c'est la deuxième lettre que l'on présente. Adama a présenté la lettre à Smyrne il y a quelques semaines. Et ce matin, la lettre à Pergame. Donc, je vous invite à tourner dans vos Bibles au chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Chapitre 2, et on va commencer notre lecture, évidemment, au verset 12. Verset 12 à 17. Apocalypse, chapitre 2, verset 12 à 17. Alors, écris à l'ange de l'Église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais là où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Béni soit sa parole. Seigneur Dieu, on veut ce matin écouter ce que tu as à dire à cette Église des premiers siècles. Et tu t'adressais d'une façon sévère et Seigneur, ce matin, on veut comprendre ce que tu as encore à nous dire à travers ces paroles. Alors donne-nous, Seigneur, des oreilles pour bien entendre et un cœur disposé pour saisir ton message ce matin à Cap-de-la-Madeleine pour ton assemblée et pour tous les peuples, Seigneur. Ce que tu as à dire est important et on veut prendre ce matin quelques minutes pour considérer ce message si important que tu adressais à travers ton serviteur Jean. Alors, Seigneur, bénis ce temps et fais-nous du bien dans le beau nom de Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'il y en a ici d'entre vous qui ont déjà vécu dans une capitale? Une capitale, une vraie capitale, là. Hein? Ah, oh, il y en a. Hein? C'est une capitale, souvent, ça met en évidence un produit vedette. Hein? Évidemment, si on parle d'une capitale politique, bien là, évidemment, là, il va y avoir les drapeaux, puis il va y avoir les personnages politiques qui sont présents dans les médias et on les voit dans les journaux. On voit qu'il y a une influence qui est directe par rapport à la vie qui se passe dans cette capitale. Hein, si on vit à Ottawa, ben on voit plein de drapeaux du Canada avec la photo de nos ministres, notre premier ministre, peut-être même la photo de la reine. Si on est à Washington, c'est des drapeaux américains et tout le tralala. On est comme imbibé. Mais on pense souvent à une capitale d'un pays, mais il y a toutes sortes de capitales. Hein? Et on en a même à travers des festivals. Tu sais, il y a des places qu'on va passer, puis c'est la capitale de l'humour. Ou d'autres places, c'est la capitale du cochon. Fait qu'ils vont faire des festivals avec ça. Hein? Ou la capitale de la poutine. C'est important, ça. Au Québec, il y a une capitale de la poutine. Alors, tout le monde, c'est un grand débat. À Trois-Rivières, quand je suis arrivé dans le milieu des années 90, Trois-Rivières était la capitale du chômage. Il n'y avait rien pour célébrer là. C'était pas un festival. Alors, il y a toujours des choses qui sont mises en évidence, et puis tôt ou tard, quand on vit là, ça a une influence sur notre vie. Et c'est un phénomène qui est bien présent, même à notre époque, autant qu'à dans le temps de l'Antiquité et du Moyen Âge. Donc, on va regarder cette lettre qui est adressée à Pergame, une lettre qui est en train de dire... qui est en train de dire à l'Église, tu vis dans un endroit dangereux. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu mis cette image-là, pour montrer un peu l'image de l'Église, hein, les brebis du Seigneur qui vivent parmi les loups. Et une brebis toute seule dans une meute de loups, ça ne t'offre pas longtemps. Alors, raison de plus pour être bien équipé. Et pour être équipé, écoutons premièrement ce que le Seigneur a à dire à son Église, une Église qui, justement, vivait parmi la meute de loups. Alors, on voit cinq éléments de la lettre. On voit l'auteur, le destinataire, le compliment, il y a un avertissement et puis il y a une belle promesse qui vient. On va regarder chacune de ces parties de la lettre qui ont une importance d'une façon ou d'une autre. On va commencer avec son auteur. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. L'épée à deux tranchants, qui peut frapper d'un bord comme de l'autre, qui fait beaucoup de dommages. Celui, le Seigneur, celui qui tient les sept étoiles qu'on voit dans les versets précédents. Les sept étoiles, les anges des sept églises, il les tient parce que c'est lui qui est en contrôle. C'est lui qui est en contrôle de ceux qui dirigent l'Église. Et il a à la fois le rôle de juge et le rôle de bourreau parce qu'il tient l'épée à deux tranchants. Apocalypse 1:16, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, de sa bouche, signifiant sa parole. Hébreux 4:12, la parole qui juge les sentiments et les pensées du cœur, une parole qui juge. Apocalypse 19:15, une épée qui frappe pour frapper les nations. Il frappera avec son épée à double tranchant les nations, une épée de jugement contre les nations. Contrairement à la lettre d'Éphèse et de Smyrne, l'auteur se présente maintenant comme quelqu'un de menaçant. C'est comme la première fois qu'il y a une connotation négative dans son introduction, mais une connotation négative qui est justifiée pour l'Église de Pergame. Un épée de jugement qui atteindra ceux qui désobéissent à Jésus-Christ. Maintenant, le destinataire. Écrit à l'ange de l'Église de Pergame. À qui? À l'ange de l'Église. Apocalypse 1:20. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Le Seigneur s'adresse évidemment aux responsables. Il parle à ses sous-bergers. Le chef des armées, le général qui parle à ses colonels parce qu'il a un message qui s'applique à eux. Pas un message à une armée de personnes célestes, à une armée de personnes terrestres, parce qu'il y a un avertissement pour eux. Donc, il s'adresse aux responsables de l'Église de Pergame. Acte 16, on voit dans Acte 16 que Paul passe par cette région-là. Et on a ici une petite carte qui montre la ville de Pergame qui est située tout près de la mer en Asie mineure orientale. Et on a évidemment ici ce qui est la Turquie actuelle. Et la ville de Pergame qui est la troisième. Si on suit la route, c'est curieux parce que la route romaine qui reliait ces villes principales d'Asie mineure, suit le même ordre que celle présentée dans le livre de l'Apocalypse. Alors, Jean, qui est prisonnier à l'île de Patmos, remet ses lettres à un messager qui prend le bateau et qui arrive au port d'Éphèse, remet les lettres à Éphèse, remet la lettre à Smyrne et ensuite à Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Donc, à Pergame, on ne sait pas grand-chose sur l'Église de Pergame. On sait que Paul a passé 2 ans à Éphèse. Acte 19, 10, « De sorte que tous ceux qui habitaient dans l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et pendant 2 années, à partir d'Éphèse, on est probablement... » Mauvais bouton. Plusieurs personnes qui transitaient à partir du port d'Éphèse propageaient le message dans les différentes églises sur cette route romaine, incluant Pergame. Donc, de sorte que tous qui habitaient cette région, juifs et grecs. Donc, il est raisonnable de croire que l'église de Pergame fut fondée pendant les années que Paul a passées à Éphèse. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Là où Satan a sa demeure. Là, deux fois dans le même verset, le Seigneur se réfère à Pergame. Pas nécessairement à l'église locale. Là où le trône de Satan, le trône à Pergame. Le trône de Satan opère partout. Satan opère partout dans le monde. Mais il y avait son trône là. Et contrairement à la croyance populaire, je ne veux pas péter votre bulle ce matin, mais Satan n'a pas son trône en enfer. Ça, c'est l'endroit où il va être emprisonné. Son trône est sur terre, encore pour un temps. Et Satan, à ce moment-là, avait installé son quartier général dans cette ville. Et sa puissance était manifeste à travers toute la région. On a vu avec notre frère Adamo qu'il y avait la synagogue. À Smyrne, il y avait la synagogue de Satan. Et maintenant, le Seigneur est en train de dire à son serviteur, écrit parce que là, il y a son quartier général à Pergame. Pergame qui est situé à peu près 90 km de Smyrne. Et Pergame est une ville à cette époque qui est d'une architecture et d'une beauté admirable. Elle est construite sur une hauteur de 335 mètres. Et c'est comme une superposition de trois villes qui sont réunies les unes et les autres par des escaliers, des belvédères, des terrasses et qui supportent des portiques à multiples étages. Dans la ville haute se trouvaient les bâtiments administratifs et surtout de loisirs. Il y avait l'Agora. Et c'est ce genre de place qui me donnerait le vertige. C'est très impressionnant de voir qu'est-ce qui a été construit là. L'Agora de Pergame, qui est évidemment des vestiges qu'on peut visiter. Il y avait un palais, un arsenal, une bibliothèque, un théâtre. Il y avait également des temples. Et à Pergame, on y faisait le culte des dieux païens, Dionysus, Athéna, le grand autel, dit l'autel de Zeus. Vous savez, cet autel qu'on peut visiter, non pas à Pergame, mais aujourd'hui, elle est au musée de Berlin. Donc, la plupart des vestiges ont été déménagés du site archéologique vers le musée de Berlin. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aller voir sur place avec tous les détails de l'architecture. Donc là, à Pergame, il y avait le culte, un culte païen. C'était également aussi la ville où on a construit le premier temple à César, qui a été construit aux alentours de 29 après Jésus-Christ. C'était la capitale de l'empire du culte à l'empereur César. Vous savez que le refus de participer à ce culte-là entraînait parfois la perte de citoyenneté et les conséquences étaient aussi des persécutions sévères jusqu'à la torture et la mort, comme il est arrivé à un des membres de l'Église de Pergame qu'on va voir tantôt. Il y avait également, dans cette ville très riche en terroirs, en oliviers, en vignes et en élevage, toute une industrie du parfum, de drap fin et de parchemin, d'où le nom de la ville, de Pergame, qui signifie parchemin, et qui était un endroit où on produisait des rouleaux de peau d'animaux. On pouvait produire les rouleaux et produire des livres. Et la bibliothèque de Pergame rivalisait avec celle d'Alexandrie, où il y avait 200 000 volumes. Ce n'était pas des volumes reliés, c'était des volumes roulés, mais 200 000, quand on y pense, 200 000, tout était écrit à la main. Il n'y avait rien imprimé. Donc, c'était un ouvrage titanesque d'avoir monté toute cette bibliothèque. Il y avait aussi à Pergame un sanctuaire médical qui s'appelait le sanctuaire d'Asclépios. Alors, est-ce qu'on a un médecin dans la salle? Ah oui, oui. Alors, évidemment, on sait aujourd'hui les médecins doivent porter le serment d'Hippocrate, hein? Mais tout ça retourne à des mythologies grecques et le dieu de la médecine, c'est Asclépios. Et il y avait un personnage à Pergame qui s'appelait Galien et qui lui était un grand médecin. Et c'était en fin de compte le médecin de Pergame qui soignait soit les grands personnages politiques de ce monde ou même les gladiateurs du temple. Et important de remarquer, regardez le petit symbole, le symbole ici qu'on retrouve sur le dieu d'Asclépios. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous reconnaissez, parce que c'était c'était une divinité. Le serpent était utilisé dans la médecine de l'époque, où on amenait les gens dans le temple et on appelait ça guérir par incubation. Donc, c'était comme les faire entrer en transe. Et là, il y avait des choses qui pouvaient apparaître et guérir la personne à travers ces songes-là. Et souvent, c'était un serpent ou d'autres animaux. Et pas pour rien qu'on avait sculpté justement ce serpent sur le bâton d'Asclépios, qui, en fin de compte, est représenté maintenant par le signe international de la médecine. Donc, c'est le symbole qu'on retrouve. Donc, il y a toujours une origine à quelque part. Hein? Voyez l'influence. L'influence parfois des cultes qui sont infiltrés dans notre quotidien et qui sont là, devant nos yeux. Alors, en plus d'un serpent, hein, si ce n'est pas satanique, on se demande c'est quoi, hein? le serpent ancien, directement du fabricant, de celui qui est sur son trône et qui dirige les choses dans sa capitale. Maintenant, le compliment. Verset 13. « Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous. Le centre des opérations de Satan était à Pergame et l'Église qui était là en ressentait les effets au premier rang. Il était sur la ligne de tir. » Et les chrétiens marchaient quotidiennement dans son quartier général, dans cet endroit de culte païen. On connaît peu sur la foi de cette Église, mais dans les faits, selon les compliments que le Seigneur leur fait, les chrétiens-là demeuraient fermes en Christ. Fermes en Christ dans cette ville qui les entourait de ces cultes d'impies. Et qui n'ont jamais renié la foi, ni la doctrine, ni la fidélité. Demeurez ferme dans la vérité. Une foi non fondée peut causer toute une destruction. Mais la foi véritable n'est pas fragile. La foi véritable, elle est indestructible, même dans la dévastation de Satan, dans le cœur même de sa capitale. Un de ses témoins, Antipas, on ne connaît pas grand-chose sur lui. On sait qu'aujourd'hui, c'est un saint de l'Église populaire. Mais qui était ce Antipas? Il était un témoin fidèle. On ne sait pas si c'était un des anciens, ou un diacre, ou un évangéliste. Mais il y a quelque chose de spécial qui lui est arrivé. Et à cause de son témoignage, il est devenu un martyr. Il a payé le prix à cause de son témoignage. La tradition raconte qu'il a été cuit dans un taureau d'airain. Et c'est ce qu'on faisait souvent à l'époque. On les mettait, c'était un taureau géant. On allumait un feu en dessous et on cuisait les gens à l'intérieur. Alors, Antipas préférait ce supplice plutôt que de se compromettre. Alors là, il y avait les fleurs et maintenant le pot. Il y avait un avertissement bien important. Verset 14. « Mais j'ai quelque chose contre toi. » Imaginez le Seigneur, là. C'est en train de dire, « J'ai quelque chose contre toi. » C'est que tu as là, là à Pergame, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre des pierres d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent à des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, à l'Église, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Quelques-uns enseignaient des mensonges. Des gens enseignent des mensonges dans ton Église et tu les acceptes. Ce n'était pas une question nécessairement de foi. Ce n'était pas nécessairement le nom de Christ, mais c'était des hérésies, des enseignements de Balaam. Là, il faudrait aller voir Nombre, chapitre 22 à 25, pour y comprendre et y saisir tout le caractère de ce sens. Balaam, qui est un peu ce prophète de service, un prophète qui était là, « Engagez-moi, puis je vais faire ce que vous me demandez. » Et le roi voulait se servir de ce prophète pour inciter le peuple d'Israël à commettre des actes interdits de la loi, soit de manger des viandes sacrifiées aux idoles, et qui entraînait petit à petit le peuple dans des désobéissances importantes. Mariage mixte, idolâtrie, immoralité, débauche, etc. Détruisant le témoignage d'Israël. Et puis ça a marché. L'Église de Pergame permettait le mix des choses du monde dans son Église. Et Dieu condamnait Israël pour les mêmes raisons qu'il avertissait son Église. Lui ne change pas. Et nous autres non plus d'ailleurs. Devant des avertissements comme ça, il faut croire que rien ne change dans notre cœur. Tu enseignes que tu peux être chrétien et faire le culte de Balaam. C'est ce que le Seigneur était en train de dire. Et tu ne les arrêtes pas. Vous savez, Paul et Barnabas visitaient les églises et sont arrivés à un endroit où il y avait des frères. Des frères qui étaient enseignés par quelques hommes. Encore une fois, quelques hommes enseignaient des frères en Judée. Et lorsqu'ils ont appris qu'est-ce qu'ils enseignaient, Paul et Barnabas, ils ont sauté leur coche. Ils ont réagi vivement. Et ça a valu même un concile à Jérusalem. Il y avait toutes sortes de choses, incluant la circoncision des hommes pour être sauvés Mais là, il y avait également d'autres pratiques pour lesquelles on condamnait. Et on dit dans Actes 15, 28, dans la conclusion du Concile, « Car il parut bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. » Donc, on terminait les recommandations finales avec cela. Ne mange pas les choses sacrifiées aux idoles qui t'entraîneront dans l'immoralité. Et puis ensuite, tu diras, « Ah, mais c'est la grâce. Toutes choses me sont permises, mais pas utiles. La grâce me le permet. » Et voilà l'enseignement des Nicolaïtes. La grâce transformée en liberté totale. Dans son deuxième épître, Pierre annonce qu'il y aura de faux docteurs dans les églises, comme il y a eu des faux prophètes parmi Israël. Et dans Jude 1:4 le confirme, ils sont là. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Et puis là, peut-être que là, ce matin, on est assis ici, puis là, on dit, ouais, des viandes sacrifiées aux idoles. Ce n'est pas qu'on veut nécessairement focusser sur ce point-là. Il y a une autre façon de le regarder, mais quand même, je me permets de faire une parenthèse. Puis c'est assez intéressant, même moi, en me préparant pour le message, ça m'a un petit peu surpris, mais ça fait réfléchir. Viande sacrifiée aux idoles, est-ce que ça existe encore aujourd'hui, ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est une annonce qui est prise de Subway sur le site Internet hier de Subway en Angleterre. Donc, Subway en Angleterre sont fiers de présenter que leurs viandes sont préparées halal. Et c'est difficile de lire, mais ce que j'ai encerclé, c'est qu'ils expliquent que dans le fond, la viande halal, c'est simplement que l'animal a été endormi avant d'être tué. Il l'explique, ce saint. Donc, n'ayez pas peur, c'est juste ça que ça veut dire. Ben voyons donc. Voyons donc. Les gens qui visitent les usines qui préparent la viande halal, là, il y a des prières. Ils font une prière avant de sacrifier l'animal. Okay? Assez que, quand ça vire pas mal, il y a même un haut-parleur, puis c'est une cassette qui fait la prière. Pour que quand les animaux sont tués, ils sont sacrifiés à un dieu. Alors, peut-être vous allez aller chez Subway puis vous mangez de la viande halal, vous ne le savez pas. Mais je ne veux pas inquiéter personne. C'est un phénomène qui va se répandre de plus en plus. Il y a plusieurs grandes marques, même dans nos tablettes. Il y a une grosse controverse avec la compagnie Campbell, que toutes les dérivés de poulet et de bœuf étaient halal, donc là, identifiés sur leur canne. Donc, il y a quelques symboles que vous allez commencer à reconnaître parce que vous êtes au courant, hein, tu sais, les produits cochers. Donc, il y a des petits codes, hein, sur le pot de beurre de peanut, sur votre beurre, tout ça qui peut dire aux Juifs qui suivent les codes alimentaires, à quel moment, quelle journée, etc. Mais maintenant, vous allez voir les produits halal à être identifiés. Et le petit H ici, c'en est un que vous allez retrouver de temps en temps, ou le M, comme ça. Donc ça, c'est des produits que vous allez reconnaître dans vos tablettes chez vous. Et peut-être que ça amène à la question de se dire, « Bien, coudonc, si c'est partout, là, je vais être comme obligé d'en manger. » Alors, je pense que ça, c'est comme une autre discussion que l'Église va avoir besoin d'avoir par rapport à la question de manger de tels produits. Mais ce matin, je ne veux pas focusser sur cet aspect-là et je ne veux pas inquiéter personne. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si on est en mode désobéissance, qu'on est collé à des idoles, pas nécessairement de la viande sacrifiée aux idoles, mais des idoles, c'est qu'on consomme les idoles, mais à un moment donné, c'est l'idole qui commence à nous consommer. Et plus que l'idole nous consomme, on s'éloigne de la vérité. Et il y a une conséquence. Et le Seigneur le dit, « Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et les combattrai avec l'épée de ma bouche. » un peu de levain fait lever toute la pâte. On doit être à l'affût des faux docteurs, des incroyants qui prennent part à l'Église et qui répandent une odeur d'idole et de s'attacher. Craindre le Seigneur qui viendra avec son épée à double tranchant et qui mettra en pièces ceux qui le désobéissent. Est-ce que c'est une lettre pertinente pour nous en 2015? Soyons fermes dans la présentation de la vérité, même si cela peut créer un onde de choc puis faire mal un petit peu aux sentiments des gens qui sont autour de nous. On avait notre frère Fernand ce matin qui dit, hein, qui vient de Gatineau pour nous le dire, qui dit, c'est lui qui m'a sauvé. Il dit, je suis fier puis je suis content de le dire. Est-ce qu'on est tous fiers et contents de le dire? C'est difficile. C'est difficile de le faire. Puis difficile, ça veut dire bien des choses. Antipas, lui, il la connaissait, la difficulté. Antipas, il connaissait les résultats d'être un témoin fidèle. Ce qui est difficile, bien, c'est des obstacles. Ça peut être des antagonismes. Quand vous témoignez du Seigneur, il y en a que vous allez voir, ils vont devenir votre ennemi, ça ne sera pas long. Ça peut être de la contestation. Ça peut amener des discussions. D'aller annoncer l'Évangile aux fermiers chrétiens, ça amène des discussions, des bonnes, difficiles parfois. Ça peut amener des embarras. On ne peut être gêné d'en parler d'un fois. Des empêchements. Est-ce que ça peut peut-être m'empêcher d'avoir une promotion au travail, le fait que je m'identifie comme chrétien? Est-ce que ça peut m'amener des ennuis même? Des entraves? De l'opposition, des tracas. Toutes des choses qui font réfléchir, mais les difficultés viennent avec la fidélité. Ça vient avec. Un attachement aux fausses doctrines, c'est l'abandon de la vérité. Regardez ce que Pierre et Jude nous écrivent. Des faux prophètes reniant le maître. Des hommes qui renient notre seul maître. Ce n'était pas rien que la question de participer à des repas illicites, mais c'était même de renier qui était le maître. Renier la vérité. Et ça va être le défi qui nous attend. Plus ça va aller, plus qu'on va avoir de la difficulté à le faire. Et j'entendais récemment même qu'il y avait des interdits même de publier des versets dans des réseaux sociaux sous peine d'amende. Alors, il y a quelques pays dont la Nouvelle-Zélande aurait adopté des lois pour empêcher, mais c'est plus que ça, c'est plus que des empêchements. C'est le fait d'être tellement consommé par notre idole qu'on s'est éloigné de la vérité et on va même manquer de saisir ce que la parole dit à propos de qui est Jésus-Christ, qu'est-ce que l'autorité des Écritures, qu'est-ce que le baptême, qu'est-ce que la réelle conversion. John MacArthur a écrit un livre en 2007 qui disait que c'était la guerre à la vérité, que le relativisme était tellement incrusté, même dans l'Église, qu'il n'y avait plus vraiment de vérité absolue. On ne peut plus être sûr de rien. Et même des chrétiens adhéraient à cette pensée-là, que la Trinité, c'est pas sûr, c'est pas grave. Alors, on abandonne tranquillement des vérités. Et c'est ce que le Seigneur nous met en garde dans cette lettre. Qu'est-ce que la vérité? Vous savez, on vous a remis dans la nouvelle Constitution un document en annexe qui s'intitule « La confession de foi ». Et je pense que ça, là, c'est le genre de choses qu'il faut parfois s'arrêter et reprendre le temps de le lire et de dire, Parce que là, on va dire, oh, ben, on connaît tout ça. Moi, peut-être qu'on connaît ça, mais en le relisant, je me pose la question. En sachant ça, est-ce que je serais même prêt à mourir pour ces vérités-là? Des choses, on dit, ben oui, mais c'est sûr, on connaît ça. Mais est-ce que je suis prêt à mourir pour ça? Et là, ça remet vraiment, ça nous ramène vraiment à ce que l'Église de Pergame vivait. Les serviteurs de cette Église-là qui étaient confrontés à renier ces vérités-là. Et on entend parler souvent de l'Église persécutée dans le monde. Je ne sais pas si vous recevez le petit bulletin « La voix des martyrs ». Et souvent, les requêtes de prière, en première, en tête de liste, c'est « Priez pour que nous gardions la foi ». Ils ne demandaient pas de prier pour que la persécution arrête. Ils disent « Priez pour qu'on garde la foi ». Parce qu'on nous amène dans des endroits publics, on nous menace et on nous demande de renier Jésus-Christ. Publiquement. Et ça, là, et ça, mes amis, c'est le genre de situation qu'on ne voudrait pas se retrouver. Et puis, on prie, Seigneur. On me dit, oh, moi, me semble, mon Dieu, je le dirais. Alors, je prie, Seigneur, que si je suis mis dans une situation de même, je le prie aujourd'hui, que j'aie le courage de le dire. Je ne le sais pas, mais je prie que j'aie le courage. Et garder la foi dans une épreuve dans laquelle mon bien-être, mon quotidien, ma petite ouate va être en péril. Soyons donc armés de toutes les armes spirituelles. Donc, si vous êtes la petite brebis parmi les loups, soyez armés. J'essaie d'en chier une avec l'épée, hein? Avec l'épée de la parole. Mais le bazooka, il fait le job, là. Je ne sais pas si le bazooka de quoi. Je ne l'ai pas trouvé dans les armes spirituelles. Mais soyons donc armés de toutes les armes spirituelles dans une société qui nous bombarde d'idoles. Avez-vous des oreilles qui entendent comme l'ange de l'Église de Pergame? Avez-vous des oreilles qui entendent? Le conseil, hein? Écoute celui qui viendra avec son épée. Le vrai croyant recevra en héritage la manne cachée et le caillou blanc. La manne cachée, ça c'est comme la il appelle ça la poutine des anges, hein, qui tombe du ciel. La manne cachée, le pain de vie, pour nous c'est le Christ, celui que le monde ne voit pas, cette manne qui est cachée du monde. Vous la recevrez pour traverser cette vie. Le caillou blanc, c'est quelque chose de précieux que l'on donne à quelqu'un qu'on aime, comme un diamant, par exemple. Hein, les athlètes de l'époque recevaient ce caillou blanc-là parce qu'ils avaient été des vainqueurs dans les Jeux, et le caillou blanc leur permettait d'aller aux festivités finales. Ils allaient au banquet des Jeux, et c'est ce caillou blanc-là qui était leur laissez-passer. Et un nouveau nom. Là, les gens se demandent tout de même si ça va être quoi le nouveau nom. Mais on ne le connaît pas. C'est un message personnel que le Seigneur va avoir sur ce caillou pour nous. Écoute, dit le Seigneur. Est-ce que cette lettre vous interpelle? Est-ce que vous êtes de ceux qui entendent ce que l'Esprit dit? Alors, ce matin, vous pouvez vous poser la question, premièrement, est-ce que je suis dans l'Église? Parce que cette lettre-là s'adresse à l'Église. Est-ce que je suis dans l'Église? Est-ce que j'ai demandé à Dieu pour le pardon de mes péchés? Mes péchés passés, présents, à venir. Est-ce que je reconnais que la mort de son Fils à la croix, Jésus-Christ, qu'il a ressuscité le troisième jour et qui a reçu le pouvoir de vous donner justement ce nouveau nom, ce caillou blanc, celui qui donne la vie éternelle. Est-ce que vous avez accepté ce sacrifice gratuit? Avez-vous demandé pardon? Vous avez déjà demandé pardon à quelqu'un? T'sais? Parce qu'on sait qu'on a commis une offense. Reconnaître qu'on a offensé quelqu'un, puis dire, oh, hey, je te demande pardon. On accroche quelqu'un, je te demande pardon. Qu'est-ce qu'on espère? Quand la personne, ben oui, c'est correct, il n'y a pas de problème. Il va le faire. Il va le faire. Reconnaissez. Reconnaissez votre situation. Que sans Dieu et sans le nom de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Deuxièmement, si vous êtes dans l'Église, ou si du moins vous croyez l'être, si vous n'êtes pas sûr, venez me voir après, s'il vous plaît. Mais si vous êtes dans l'Église, entendez-vous ce message? Entendez-vous le Seigneur qui dit « Gare aux idoles. Gare aux idoles qui vont te consumer et t'amener. Et t'amener dans une voie de perdition. Repens-toi donc. C'est toujours le temps. » On va prier. Seigneur Dieu, tout d'abord, on veut te remercier pour ta parole et ce message que tu as envoyé à travers ton serviteur emprisonné, mais que tu as donné cette mission de livrer ces lettres et qui parle à l'Église, à ton Église. Donc, Seigneur, tu as parlé à cette Église à Pergame qui était entourée de l'ennemi et qui subissait de viles persécutions. Alors, Seigneur, on te demande, en ce temps de société moderne où la culture de la mort, les ténèbres nous environnent, Seigneur, que tu nous gardes. Seigneur, nous te prions de nous garder dans la foi comme ce serviteur fidèle Antipas. Seigneur, même dans les moments les plus difficiles, tu es là et tu nous accompagnes. Donc, Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et nous te prions pour ceux et celles, Seigneur, qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas accepté ton si grand salut, Seigneur, que tu les attires et que tu les sauves, Seigneur. Nous voulons te remettre tout ce temps de cette journée et de la semaine entre tes mains dans le beau nom et le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine. Merci.